Le Grand Matin Sud Radio. Le petit déjeuner politique.
Et à 7h42, notre invité, c'est Raphaël Glucksmann, tête de la liste Place Publique Parti Socialiste aux élections européennes. Bonjour, bienvenue.
Bonjour.
Et je vous laisse avec Philippe David et Christophe Bordet, que je salue également.
Bonjour,
bonjour
Christophe.
Bonjour Raphaël Glucksmann, bienvenue sur Sud Radio. L'info vérité du jour, c'est la question qu'on pose aux auditrices et aux auditeurs. La France devient-elle un État policier ? Et pour le moment, 87% des auditeurs de Sud Radio votent oui. Est-ce que pour vous, la France est en train de devenir un État policier ?
Non, je ne pense pas que la France soit un État policier. On a encore un État de droit, mais, il y a un mais. Mais il y a une dérive de plus en plus inquiétante. Et quand on interdit à un journaliste de faire son travail, quand on peut interdire à des manifestants de manifester simplement par décision non plus d'un juge, mais du préfet, eh bien oui, il y a des dérives inquiétantes en France. Il y a des dérives qui ne devraient pas avoir lieu. Je veux dire, on a un mouvement social depuis 6 mois. Il y a bien sûr des casseurs qu'il faut interpeller, qu'il faut mettre hors d'état de nuire. Mais on ne va pas changer la manière dont on vit, notre constitution, notre état de droit pour 200 casseurs ou 200 black blocs.
Raphaël Glucksmann, vous soutenez ce matin très clairement, vous parlez d'un journaliste, vous soutenez très clairement Gaspard Glantz, qui est donc journaliste indépendant, plutôt engagé, on va dire, à gauche et travaillant pour un site internet qui est plutôt à gauche, qui a été condamné aussi à diverses reprises, notamment pour un vol il y a quelque temps. Vous le soutenez de manière claire et nette ce matin ?
Mais moi, je n'ai pas à partager l'ensemble de ses écrits pour soutenir son droit à travailler. Je veux dire, il serait pas de gauche, mais de droite, ça ne changerait rien. Il a le droit de travailler. Il a le droit de travailler, c'est tout. C'est comme ça en France. On n'est pas en Russie ou en Chine. On est un état de droit où les journalistes ont la liberté d'être extrêmement critiques vis-à-vis de l'État, vis-à-vis des institutions, vis-à-vis du pouvoir.
Mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la police, samedi dernier, est allée trop loin contre les journalistes. Il y a des journalistes de l'AFP qui ont été arrêtés. Ouais. Il y a des journalistes de Radio France Internationale qui ont été arrêtés. Est-ce que ça veut dire que la police va trop loin et qu'elle devient le véritable bras armé de la Macronie au pouvoir ?
Non mais moi je dirais pas que la police est le bras armé de la
Macronie
au pouvoir. Moi je reste quelqu'un de nuancé dans mon jugement. Simplement, je veux dire, le journaliste du Figaro qui témoigne par exemple des violences policières et de l'arrestation, c'est pas non plus Che Guevara, on parle du Figaro là. Donc il y a un problème, oui, dans la relation avec la presse. Il y a un problème de violence policière, il y a un problème de violence des casseurs évidemment, mais il y a aussi un problème de violence policière vis-à-vis des gilets jaunes. Il y a trop de blessés, il y a trop de tirs de flashball dans les yeux. Il y a un problème de maintien de l'ordre et il y a un problème vraiment là de relation avec la presse. Je veux dire, c'est pas possible qu'on doive, quand on est journaliste, avoir peur de se faire arrêter quand on va couvrir une manifestation. On est en France là.
Dites-moi, Raphaël Glucksmann, la défiance envers la police, les violences contre les policiers, les slogans, les phrases ordurières de certains à leur encontre, beaucoup de Français.
La phrase honteuse, suicidez-vous, qui est un scandale absolu.
Oui.
D'autant plus quand on sait qu'il y a presque 30 policiers qui
28.
Sont, ouais, 28, 20, 28 ou 29 policiers qui se sont suicidés depuis le début de l'année, qu'encore la semaine dernière, une mère de 2 enfants s'est donné la mort sur son lieu de travail, une capitaine. C'est un scandale absolu.
Mais quand même, j'ai envie de vous dire, beaucoup de Français ont une dent aujourd'hui contre la police. Notre sondage hier soir sur Sud Radio, 63% des auditeurs ont répondu non, on ne soutient pas la police. On est loin du Big Love de 2015 après les attentats malheureux que l'on a connus. La faute à qui, Raphaël Glucksmann ?
Mais pas la faute.
La faute à qui ?
Pas la faute aux policiers, la faute à ceux qui donnent des ordres aux policiers. Mais la faute au-delà de ça, à 6 mois, ça fait 6 mois d'une crise sociale sans précédent. Et quelle est la réponse politique et sociale apportée à cette crise sociale ? Je veux dire, là, on attend les déclarations du président Macron, mais ça fait 6 mois ! Ça fait 6 mois que la France est sur les dents, que tout le monde est dans une tension extrême. Je veux dire, ce président a été élu pour réconcilier les Français. C'était ce qu'il disait. Je suis là pour réconcilier une nation fracturée. Eh bien, elle n'a jamais été aussi fracturée que sous son règne. Et il y a un moment où on a l'impression, comme ça, d'être gouverné par quelqu'un qui craque des allumettes au-dessus d'un baril de poudre. Moi, je trouve ça extrêmement dangereux et surtout totalement inverse à ce qui avait été promis au peuple français.
Donc Macron met le feu plutôt qu'autre chose.
Bien sûr, Macron met le feu avec ses petites phrases. Macron met le feu en commençant son quinquennat avec des cadeaux aux plus riches qui n'avaient quand même pas besoin de ça. On est dans un moment d'explosion des inégalités. Il y a des gens qui travaillent.
La gauche a fait aussi des cadeaux aux plus riches. Hein, 40 milliards pour les entreprises.
Je suis pas venu chez vous pour défendre le bilan de la gauche quand elle était au gouvernement. Je n'étais pas, moi, partisan de cette gauche-là. J'étais très critique. Donc, je ne suis pas là pour défendre ce bilan. Effectivement, il y a eu des cadeaux faits aux entreprises. Quand on voit que Total et Carrefour...
Aux grandes entreprises, oui.
Bien sûr, parce que le problème en France, c'est quand on fait des aides, c'est indistinct, c'est indifférencié. Et que quand on fait le CICE, par exemple, c'est Carrefour et Total qui se retrouvent les principaux bénéficiaires des aides d'État. Mais ça continue sous ce gouvernement. Et c'était pareil avec les gouvernements de droite. Quand est-ce qu'on pourra enfin avoir une politique à destination, par exemple, des TPE-PME spécifiques? C'est eux qui ont besoin d'aide, c'est elles qui ont besoin d'aide.
Absolument.
C'est pas Carrefour et Total.
Du tissu. Hein.
Mais bien sûr, c'est pas Carrefour et Total. On se retrouve dans une situation où on veut taxer le diesel des gens qui ont besoin de leur voiture pour aller travailler et où on fait des cadeaux fiscaux à la principale entreprise polluante française qui s'appelle Total, qui est en train de dévaster des pays entiers en Afrique et qui, par ailleurs, verse des dividendes extraordinaires à ses actionnaires. Donc en fait, l'argent du contribuable va financer les dividendes versés aux actionnaires de Total. Ça, c'est complètement anormal.
Dites-moi, la conférence de presse du président, c'est demain, les annonces, c'est demain, tout n'est pas calé, hein, mais ça pourrait durer 4 heures, nous dit-on, du côté de l'Élysée. Vous craignez que ce soit le grand débat, finalement, avec les journalistes demain, 4 heures de blabla sans annonce forte, 4 heures pour endormir tout le monde encore?
Je ne sais pas, moi, depuis le début du grand débat, on insiste... Moi, j'étais pour le grand débat, parce que je pense que les Français... il faut qu'ils se parlent, il faut qu'ils s'expriment. Maintenant, on a assisté quand même à une forme de one-man show, si on dit la vérité. C'est moi et les maires, moi et les intellos, moi et les journalistes. Alors j'espère, moi, parce que je suis un citoyen français, je ne suis pas un opposant pavlovien, j'aimerais bien que la France aille mieux. Donc moi, j'espère qu'il y aura des mesures beaucoup plus fortes que celles qui ont fuité en amont de sa conférence de presse. Parce que si ce qui est prononcé dans cette conférence de presse, c'est ce qui a fuité dans la presse, la vérité, c'est que c'est pas du tout au niveau de la crise sociale qu'on connaît.
Alors, Raphaël Glucksmann, on va égrener un petit peu ces annonces qui ont fuité dans la presse, comme vous le dites. Travailler plus, supprimer un jour férié, par exemple. Vous dites bravo Macron ou c'est une hérésie complète?
Non, mais travailler plus, moi je le vois bien, c'est le slogan qu'avait porté un candidat de droite au pouvoir en 2007.
Sarkozy,
travailler plus pour gagner plus. Mais la vérité, c'est qu'on fait croire aux Français qu'ils ne travaillent pas assez. Mais attendez, en Allemagne, les gens travaillent moins qu'en France. C'est pas un pays bolchevique, l'Allemagne. C'est pas la Corée du Nord, l'Allemagne. En Allemagne, les gens travaillent moins qu'en France. En Hollande, c'est quand même pas un pays arriéré non plus. Les gens travaillent moins qu'en France. Donc il y a un problème à faire croire aux Français qu'ils travaillent pas. C'est pas vrai. En France, on travaille plus que chez nos voisins. Et la tendance générale en Europe, c'est justement à travailler moins. Donc moi, je veux bien. Je crois que c'est complètement à contre-temps comme slogan, travailler plus pour gagner plus.
Donc c'est une hérésie complète. Pour vous?
Une hérésie, moi je suis pas un imprécateur et un inquisiteur.
Mais c'est ça,
je ne verse pas des fatwas dans le débat public. C'est pas une hérésie, c'est une erreur.
Supprimer l'ENA, le patron de l'ENA dans le Figaro ce matin se défend. Non, les futurs hauts fonctionnaires ne sont pas coupés des réalités, dit-il. Seuls 2,5% font de la politique aujourd'hui. Il a raison, supprimer l'ENA, c'est complètement démago. Ça sert à rien.
Moi je pense que supprimer l'ENA, c'est un gadget. Voilà, c'est un gadget. Alors après, il faut réformer l'ENA. Mais le problème, c'est pas l'ENA, c'est pas l'existence d'une école formant les hauts fonctionnaires. Le problème, c'est qu'ensuite, quel type de carrière vont faire ces hauts fonctionnaires? Et quand on a un va-et-vient entre des grands groupes du CAC 40 et des fonctionnaires, l'Élysée et Matignon, et les hauts postes de la fonction publique, là, on peut se poser une question, parce que le problème, c'est pas qu'il y ait des gens qui soient formés pour défendre l'intérêt général. Le problème, c'est quand les intérêts particuliers s'immiscent dans l'intérêt général. Quand on a l'impression que la décision, elle est prise par des gens qui ont un peu un pied des deux côtés, travaillé...
C'est ce que dénoncent les Français et les Gilets jaunes
particulier. Mais vous pensez qu'il n'y a pas une raison à cette crise sociale? Moi, je pense que l'origine de la crise qu'on est en train de vivre est parfaitement justifiée. C'est parfaitement justifié. Oui, on vit dans une société profondément injuste. Et oui, c'est anormal, pour revenir à votre question d'origine, c'est anormal que quelqu'un qui ait travaillé pour Areva décide ensuite de la politique nucléaire de la France. Parce que où est la légitimité, là?
Raphaël Glucksmann, un mot sur la tête de liste aux européennes pour La République En Marche, Nathalie Loiseau, qui à Sciences Po, lorsqu'elle était jeune, a fait une connerie, se présenter sur une liste d'extrême droite. elle ne se rappelait pas. Faute finalement avouée, entièrement pardonnée ou pas ?
Le problème, c'est sa défense actuelle. Moi, vous savez, je vais vous dire quelque chose qui peut-être va vous surprendre, mais je ne jette pas la pierre à Nathalie Loiseau pour ses engagements il y a 35 ans. Elle avait 20 ans. Simplement, aujourd'hui, il faut qu'elle admette et qu'elle dise qu'elle avait fait une erreur. Très bien.
Faut dire qu'en 2007, vous étiez ultra-libéral.
Mais non, j'étais pas ultra-libéral. Ah bon, j'étais Kouchnerien, j'étais libéral.
C'est ce que j'ai
gauche,
compris.
Mais ce qui était une erreur. Et d'ailleurs, j'ai écrit deux livres.
Vous êtes présenté aux législatives sur Alternative Libérale.
Ah non, je me suis pas présenté aux législatives sur Alternative Libérale. C'est le bordel dans la tête, mais ouais. Non. Je ne me suis pas présenté aux législatives, j'ai jamais été candidat à aucune élection sauf à celle-ci.
Oui.
Et précisément, je suis candidat parce que c'est une élection européenne, donc on va bientôt parler
d'Europe,
j'en suis
sûr.
Donc
c'était quoi ces accointances avec Alternative Libérale ?
Mais moi, j'ai toujours dit, j'étais un libéral de gauche, et je pense que c'était une erreur. J'ai écrit des livres pour montrer à quel point le logiciel libéral, justement, était en échec, qu'à quel point cette gauche mondialiste qui voulait abolir les frontières, qui disait que de toute façon, eh bien, qu'on puisse circuler, que les biens, les marchandises, les personnes puissent circuler et tout ira bien, cette gauche-là, elle s'est plantée. Et c'est ma gauche. Donc moi, quand je fais une critique de la gauche qui échoue, eh bien, je me critique moi-même. Alors, ça peut sembler bizarre, parce que c'est pas un rituel en politique, l'autocritique et l'introspection, mais moi, c'est ce que je fais. Donc oui, moi, j'ai fait une erreur. Vous me direz, avoir été libéral, c'est pas comme avoir été
sur candidat. C'est pas la même chose.
Et l'extrême droite. Mais maintenant, même l'extrême droite, même le GUD de Nathalie Loiseau, moi, je ne jette pas la pierre pour un engagement de jeunesse. Il y en a qui ont été trotskistes, d'autres qui ont été maoïstes, d'autres qui ont été tartampions.
Donc c'est pas grave.
Mais c'est pas ça le problème. Moi, mon problème, c'est la politique qu'elle entend mener et qu'elle mène actuellement. Moi, c'est ça mon problème. Moi, ce que j'aimerais, c'est que le débat porte sur ce qu'on nous propose à La République En Marche. Quel est leur projet pour l'Europe? Quel est leur projet pour la France? C'est ça le problème. C'est pas ce que Nathalie Loiseau pensait quand elle avait 20 ans. Honnêtement, tout le monde s'en contrefiche.
Dites-moi, puisqu'on parle de la gauche, puisque vous êtes là pour représenter évidemment à la gauche et le Parti Socialiste en particulier, Mélenchon tend la main ce matin dans Libération pour éviter, dit-il, l'effacement de la gauche. Il faut qu'il y ait quelque part un rassemblement de la gauche. Vous lui répondez quoi ? Les yeux dans les yeux, si je puis dire.
Les yeux dans les yeux, je dis déjà, je préfère ce ton-là au ton qu'il y avait auparavant, ça aussi. Là, c'est son entretien, je l'ai lu, je l'ai trouvé dans un ton calme et ouvert. Maintenant, il y a des différences de fond. Il y a des divergences de fond sur la question européenne en particulier. Là, il s'agit d'une élection européenne. Autant, moi, je ne comprends pas bien pourquoi il y a la liste de M. Jadot, de M. Hamon et la nôtre, parce que là, sur la question européenne, il y a quand même une proximité. Autant, quand il y a une divergence de fond, c'est normal qu'il y ait deux offres politiques. La France insoumise, ils n'ont pas la même vision de l'Europe que moi, ça c'est certain, que nous. C'est-à-dire qu'ils sont profondément attachés à la souveraineté nationale. J'ai entendu encore le discours de M. Mélenchon à Amiens.
Sans union de la gauche et sans rassemblement à gauche, vous allez perdre les européennes. Vous êtes à 6%,
mais bien sûr,
vous,
mais
par exemple.
Que déjà les gens
6%, ça va être un échec.
Mais non, ça ne sera pas un échec, parce que je vois, moi, la dynamique qui s'enclenche et je vois la ferveur des militants sur le terrain, et c'est comme ça que se gagne une élection. C'est pas avec les sondages, c'est avec la ferveur qui se dégage du terrain. Maintenant, moi, je vais vous dire une chose, que déjà, les gens qui pensent pareil se rassemblent. Ensuite, il peut y avoir un débat à gauche. Voilà, moi j'ai écouté le discours d'Amiens de M. Mélenchon où il nous explique tout ce qu'on pourrait faire en France avec l'argent qui est donné à l'Union européenne. Mais ça, c'est une logique qui est une logique nationale. Moi, je suis pour démocratiser l'Europe. Je pense qu'à l'échelle de la mondialisation actuelle, qui est devenue complètement folle, le protectionnisme, il doit être aux frontières de l'Union européenne. Que si on veut imposer une amende à Google et aux GAFAM, eh bien ça se fera par l'Europe, que si on veut lutter contre le réchauffement climatique, ça se fera à l'échelle européenne, que si on veut peser face à la Chine, face à Trump, face à Poutine, eh bien on a besoin de l'Europe. Donc moi, je m'inscris dans la perspective d'une gauche pro-européenne. Ensuite, on peut avoir un débat avec M. Mélenchon.
Raphaël Glucksmann, la dernière question dans le petit déjeuner politique de Sud Radio, c'est notre imitateur Dany Moreau qui vous la pose.
Oui, bonjour Raphaël, c'est moi. Fanfan le François, le dernier fossile du PS, après Martine Aubry. Tu filmes, fais gaffe si tu rigoles. Tu as déclaré la gauche a une mentalité de videur de boîte de nuit et t'avoueras qu'il ne faut pas être fut-fut pour mettre un vigile à l'entrée d'une boîte qui est entièrement vide. Hein.
Ouais.
Alors, on dit que tu étais fan de Sarko lors de sa campagne en 2007 et qu'à un de ses meetings, tu aurais déclaré espérer qu'il liquide l'héritage du mai 68. Alors,
non.
Forcément, Rafi, je me permets de te poser la question suivante. Est-ce qu'en faisant perdre la gauche aux Européennes, tu souhaites liquider l'héritage de mai 81.
Non, je vous rassure, je ne vais pas rétablir la peine de mort si c'est ça l'héritage de mai 81 aussi. C'est faux, j'ai même écrit un livre ensuite qui s'appelle Mai 68 expliqué à Nicolas Sarkozy contre le discours de Bercy, c'est-à-dire contre la volonté volonté de liquider l'héritage de 68. Donc, non, vous inquiétez pas, je ne suis pas un sous-marin de la droite pour liquider l'héritage de 80. Au contraire, moi, ce que je voudrais, c'est que la gauche, elle renoue avec sa tradition. Sa tradition, c'était de raconter un grand récit à la France de transformation sociale, de projeter une image plus juste dans le monde de ce qu'est notre pays et de rétablir la question de la justice sociale, la justice écologique, la justice fiscale. Or, la gauche a un peu oublié ça et elle a perdu les classes populaires. Donc maintenant, il s'agit de renouer avec ce récit-là.
Merci beaucoup, Raphaël Glucksmann. Merci à Christophe Bordet. Merci à Philippe
Merci
David.
Beaucoup.
Et bien sûr, Danny Moreau, alias Fanfan ce matin. François Hollande, qu'on retrouvera, hein, Danny Moreau, pas François Hollande, tout à l'heure à 8h20 sur l'antenne de Sud Radio. Et puis, après 8h, restez bien avec nous. Nous aurons le docteur Jean-Paul Ortiz. Il est président de la Confédération des syndicats médicaux français. On se posera la question, les Français font-ils à nouveau confiance au vaccin. C'est côté Sud Radio, il est 7h58.